J'espère que tout le monde entend bien. Cette réunion donc va être enregistrée et l'APAG ensuite mettra à disposition des adhérents ce café virtuel. Donc c'est une première pour l'APAG Picardie. On vous remercie, monsieur, d'avoir accepté cette invitation. Monsieur, vous êtes donc archéologue, docteur en préhistoire à l'Université de Lille 1, directeur de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive Hauts-de-France. Vous êtes également donc rattaché à l'équipe Histoire naturelle de l'homme préhistorique au Muséum national d'histoire naturelle. Et votre principal thème de recherche concerne l'homme de Néandertal, plus spécifiquement les interactions homme-milieu, les dynamiques d'habitat et le rôle des fluctuations climatiques dans le peuplement de l'Europe. Alors, vous avez également participé à différentes commissions scientifiques, vous animez des séminaires, si je ne me trompe pas, au Muséum d'histoire naturelle, vous donnez également des cours d'histoire de l'art préhistorique à l'Université Picardie Jules Verne. Et j'ai pu lire également que vous participez également des commissions ou des colloques à l'Université de Paris 10 et l'Université de Tours, que vous avez participé. Alors, vous avez été co-commissaire de l'exposition Néandertal Expo qui s'était tenue à Paris en mars 2018 à janvier 2019 et également de mai 2019 à janvier 2020 à Ottawa. Alors, parmi les nombreux ouvrages que vous avez publiés, je citerai le dernier en date, Néandertal, lui et nous, qui a été publié avec Marie-Hélène Patou-Matisse aux éditions Gallimard en 2018, collection album Beau Livre. Alors, ce soir, vous avez accepté de nous présenter les plus anciens peuplements de l'Europe. Et donc, je vais vous laisser la parole pour cette conférence. On vous remercie encore chaleureusement.
Merci beaucoup. J'espère que tout le monde m'entend très correctement et que vous voyez parfaitement les diapositives. N'hésitez pas à me dire s'il y a un souci sur ce sujet. Et je ne sais pas s'il faut garder en visio ma grosse tête rouge. Je vous laisse régler ça. Alors, oui, les premiers peuplements de l'Europe. C'est un sujet qui est à la fois d'une actualité scientifique, parce que des découvertes se font tous les jours, mais c'est également un sujet qui est extrêmement délicat à manipuler, dans la mesure où nous disposons malheureusement de très très peu d'indices sur un temps qui est évidemment extrêmement long, vu qu'on parle en dizaines de milliers de générations. Je vous donne juste un exemple, la durée de vie de l'espèce Néandertal qui apparaît autour de 350 000 quelque part par là. Ça tourne autour de entre 18 000 et 19 000 générations humaines. Et la durée entre Jésus-Christ et nous, c'est 80 générations. Ça donne une petite approche chronologique qui permet de relativiser un peu le temps extrêmement pressé que nous vivons actuellement. Dans la suite de l'exposé, je vais plutôt parler en centaines de milliers d'années, puis au fur et à mesure qu'on se rapprochera de nous, on arrivera peut-être aux dizaines de milliers d'années. Je vais également parler parfois en stade isotopique, je vais très très vite y arriver. Et cet exposé, je vais le faire en trois parties. En première partie, on aura quelques petites généralités à examiner ensemble. En seconde partie, c'est le corps de l'exposé, on aura les données archéologiques dont nous disposons à ce jour. Et enfin, on tentera une conclusion par rapport à ces données et ce qu'on peut tirer de ces données. Sachant que sur le million d'années qui nous sépare des premiers peuplements sur le territoire qui s'appelle actuellement la France, nous disposons de quelques centaines de fossiles seulement, pour relativiser un peu tout ce que je pourrais vous dire. Alors, quelques petites généralités. Vous avez ici une courbe. Je ne sais pas si ma souris, si vous voyez. Ici, vous avez ce qu'on appelle des courbes isotopiques. Les courbes isotopiques qui sont ici sur le quaternaire, 2,6 millions environ jusqu'à maintenant. Nous sommes dans la période qui s'appelle Holocène. Ces courbes isotopiques sont issues d'un savant calcul du ratio entre l'isotope 16 de l'oxygène par rapport à son isotope 12. Et ce ratio permet de déterminer la température globale lors de la constitution de cet isotope de l'oxygène. Et par carottage dans les glaces du Groenland, on arrive à avoir, en remettant ça en stratigraphie, cette courbe qui montre que par moment, le ratio est en faveur de l'isotope 16, et cela correspond à un climat tempéré. Et par moment, c'est l'inverse, il est en faveur de l'isotope 12, et ça correspond à un climat froid, voire même très froid. Nous sommes ici, dans l'Holocène, on a commencé les coupes de maintenant, on essaie de remonter dans le temps, et on a donné des numéros à ces stades isotopiques. Et ici, notre numéro est le 1. On commence par celui-là. Vous voyez ici, je ne sais pas si vous apercevez le curseur de cette petite souris, vous avez ici le stade isotopique 2, très froid, des stades intermédiaires, et je reprends le stade 5, tempéré chaud, chaud que maintenant d'ailleurs, hein. C'est l'Eémien, une période qui s'appelle l'Eémien, autour de 120-125 000 ans, avec un site célèbre en Picardie qui s'appelle Caour, à côté d'Abbeville. Juste avant ce stade chaud et mien, un stade isotopique très froid, le stade 6, etc., 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 etc. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est deux choses. La première, elle est technique. Quand un stade isotopique porte un numéro pair, c'est tempéré. Quand un stade isotopique porte un numéro impair, c'est froid. La deuxième chose à retenir, Kik, c'est qu'on a une tendance générale au refroidissement de la planète depuis le début du quaternaire. Je n'interviendrai pas évidemment sur les problématiques de réchauffement actuel, hein. Mais le refroidissement de la planète est une donnée climatique objective, même si nous vivons pour le moment une phase de fort réchauffement. À partir d'environ moins 800 000, donc à partir d'ici, moins 800 000, on constate deux choses. Une augmentation dans l'amplitude des variations climatiques. Ça se voit très bien sur le graphique. Donc, il fait à la fois plus chaud et plus froid. Et une augmentation importante de la durée des phases froides qui va culminer à partir de moins 600 000 à environ, sur une durée moyenne, 75% de phases froides pour 25% de phases chaudes. Si ça continue comme ça, d'ici environ 2000 ans, 3000 ans, on devrait avoir une nouvelle glaciation. Ça ne réglera pas nos problèmes de réchauffement climatique actuels, mais ça peut peut-être rassurer certains. Alors, quelques mots, toujours en généralité, sur dans les très grandes lignes, l'état de nos connaissances actuelles sur le peuplement de l'Ancien Monde. Je parle bien de l'Ancien Monde, hein, les Amériques, c'est totalement différent. Le foyer de peuplement, il est, à n'en pas douter, en Afrique centrale et orientale. Et le premier qui commence à bouger, a priori, c'est Homo habilis, un très, 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 très lointain précurseur, qui apparaît dans ces zones-là autour de 2,3 millions. Et notre brave Homo habilis a la bougeotte, alors que les autres, les Australopithèques, sont restés en Afrique. Mais Homo habilis, il a la bougeotte, ce qui est peut-être une caractéristique de l'espèce humaine. Et il se déplace vers l'Afrique du Nord. A priori, il ne passe pas le détroit de Gibraltar, il ne le passe jamais, mais c'est compliqué à traverser, Gibraltar. En revanche, il passe par le Moyen-Orient et très vite se dirige plein est pour traverser l'Asie, a priori le long des côtes, et il arrive très vite en Asie orientale, dès 1,8 million, 2 millions, il arrive en Asie orientale. En Europe, il faudra un peu plus de temps. Curieusement, même si le trajet est plus court, il s'est d'abord orienté vers l'Asie et l'Europe, c'était dans un second temps. Peut-être qu'il a profité du tracé des côtes, mais il a peut-être aussi profité de la grande plaine, actuellement la grande plaine russe, Tadjik pour faciliter ses déplacements. L'Europe est atteinte environ 300 000 ans plus tard. Les plus anciennes traces qu'on a, et c'est à partir de là qu'on va vraiment commencer à discuter, parce qu'on parle de l'Europe dans cette petite conférence, hein, vers 1,5 million dans le sud de l'Europe, en Espagne, à environ 1 million, moins 900 000, les latitudes moyennes sont atteintes. On a des traces à 850 000 en Angleterre, en Grande-Bretagne. Mais pour passer le 52e, 53e degré de latitude nord, il faut attendre moins 40 000. On n'a aucune occurrence auparavant. Et moins 40 000, c'est nous, les Homo sapiens, qui passons ce seuil du 53e degré de latitude nord. Il n'y a aucune occurrence d'une autre espèce que la nôtre à avoir passé ce seuil. Alors, les hommes qui sont à 1,8 million et à 1 million en Asie du Sud-Est et à 1,8 million en Asie, c'est des us, qui est une espèce générique qui recouvre certainement plusieurs sous-espèces, mais qu'on appelle au sens strict Homo erectus. Ceux qui arrivent en Europe à 1,5 million, ce n'est pas des Homo erectus, c'est une autre espèce, des Homo antécessors. Voici un arbre phylogénétique. Et ceux qui, donc vous avez sur la gauche, Homo erectus, ces gens-là étant issus d'un certain Homo ergaster, qui est un descendant d'Homo habilis en Afrique, mais Homo ergaster reste en Afrique. Homo erectus se développe en Asie. Il donne sans doute des formes dérivées, comme l'homme de Luzon, autour de 120 000, et l'homme de Flores, c'est celui qu'on appelle le Hobbit, hein, un humain extrêmement petit, hein, 70-80 cm de haut, sur l'île de Flores. En Europe, il y aurait deux lignées, Homo georgicus, on va y revenir en Géorgie, et Homo antécessor en Europe, en Espagne au moins, peut-être en Angleterre, et s'arrêter sans descendance. En Afrique, Homo ergaster évolue, devient Homo heidelbergensis, qui donne lui-même Denisova, l'homme de Néandertal, et Homo rhodesiensis, qui est notre ancêtre direct à nous, les Homo sapiens. Et il y a environ 30-40 000 ans, il n'y a plus que Homo sapiens sur la planète. Tous les autres hominidés ont disparu pour des raisons qui nous échappent encore. Mais on peut peut-être imaginer que nous sommes un petit peu responsables de cette disparition des autres hominidés. Peut-être pas par conflit, on n'en a pas de trace, mais simplement peut-être par concurrence sur les territoires en question. En tout cas, il s'avère qu'à partir du moment où nous arrivons quelque part, les autres hominidés qui étaient sur ce territoire disparaissent à moyen terme. Alors, voilà, l'Europe. On va parler un peu de l'Europe, d'un point de vue strictement géographie et géographie politique. Donc l'Europe, restons humbles, c'est jamais que l'extrémité de l'Asie. Hein. C'est une petite péninsule, une petite péninsule asiatique. Et en préhistoire, on ne fait pas de distinction entre l'Europe et l'Asie. On utilise cette notion bien pratique qui s'appelle l'Eurasie. De toute façon, l'Europe est une construction politique. Et rappelons-nous que c'est Pierre le Grand qui a reporté de plusieurs milliers de kilomètres la frontière européenne vers l'Est, jusqu'à l'Oural, pour ancrer la Russie en Europe et la sortir de l'Asie. Donc c'est vraiment une construction politique, cette Europe. Voilà le territoire sur lequel nous allons travailler modestement. Donc le foyer originel qui se trouve ici quelque part, les déplacements des hominidés, ici l'Inde et l'Asie, ou par le Caucase, et les plaines russes et sibériennes, et de l'autre côté, certainement les plaines russes et ou par Anatolie et les Balkans, arriver vers l'extrémité du monde, mystère que constitue l'Europe. Que après, ben, il n'y a plus rien. Après, c'est l'Atlantique, donc l'Europe est un cul-de-sac. C'est le cul-de-sac occidental, l'Asie. L'Europe, à l'époque, dans la plupart du temps, ça ressemblait à ceci. Pour environ, dans le dernier million d'années, environ 80% de son temps, c'est-à-dire un continent dont la partie septentrionale, vous le voyez ici, était recouverte par la calotte glaciaire. Ici, c'est la calotte glaciaire au maximum de son extension, il y a environ 20 à 25 000 ans. Et vous voyez que le Benelux, le nord de l'Allemagne, la Pologne, la plupart des îles britanniques, étaient recouverts par cette calotte glaciaire. Et évidemment, cela a eu des conséquences sur la flore, et donc sur la faune, et donc sur les habitats des humains, bien sûr. Deuxième conséquence, sur les limites territoriales. Donc voici la même image avec les limites territoriales que nous imaginons. Limites territoriales au sens géographique du terme, pas au sens politique, évidemment, pardon. La calotte glaciaire s'étendant sur la grande partie du nord de l'Europe, forcément sur le nord de la Russie. Cette glaciation d'il y a environ 20 à 25 000 ans est une glaciation qui provient du Canada, de l'ouest, et le nord de la Russie est un peu plus épargné, mais ça peut changer selon les glaciations. Qu'il en soit, ce que vous voyez, c'est le tracé des côtes, qui est extrêmement différent, parce qu'il y a une rétention de masse gigantesque d'eau dans les calottes glaciaires, et donc le niveau de la mer baisse, et peut baisser pour les très fortes glaciations, comme celle du stade isotopique 2, c'est pas si vieux que ça, hein, c'est il y a 20 000 ans, pas plus, ça peut baisser jusqu'à 120 mètres. Et donc, ça rattache des îles ensemble, la Corse et la Sardaigne formaient une seule unité. Et ça modifie de manière très substantielle le tracé des côtes, comme vous le voyez ici. Le golfe de Gascogne est largement réduit par rapport à ce que nous connaissons maintenant. Cela donne également des modifications importantes dans les écosystèmes. Vous avez ici la reproduction, la reconstitution de trois isotopiques, donc de trois climats différents. Dans l'ordre du plus ancien au plus récent, vous avez ici en bas à droite le stade isotopique 6, qui s'étend environ de 180 000 à 125 000. Ce stade isotopique 6 est un stade très froid. Vous voyez qu'en gris, vous avez la calotte glaciaire qui recouvre tout le nord de l'Europe, une mer de glace permanente ici, un désert polaire, et ici en bas, une toundra qui recouvre la quasi-totalité de la France et le sud de la Grande-Bretagne. Les côtières sont émergées ici. C'est un phénomène important parce que les îles britanniques ont majoritairement été rattachées au continent. Et c'est relativement rare à l'échelle géologique que les îles britanniques soient des îles. En haut à gauche, oui, au grand désespoir de Johnson, peut-être, c'est comme ça. En haut à gauche, vous avez un stade chaud, le stade émien dont j'ai parlé tout à l'heure, le stade 5 sous stade E, plus chaud que maintenant, un peu plus chaud que maintenant, 1 degré, 1 degré et demi de plus. Et là, vous voyez, c'est ce qui nous attend d'ici une trentaine d'années, une cinquantaine d'années sans doute. Et vous voyez que dans ce stade isotopique chaud, bah la flore a beaucoup changé. Hein. Là, on est sur des forêts d'arbres caduques, feuilles caduques, avec en haut des forêts de conifères sur toute la Scandinavie, forêts boréales, l'extrême Navie. La Grande-Bretagne redevient une île. Ce stade isotopique, ça dure un petit 10 000 ans. Hein. C'est la durée en général d'un interstade, d'un interglaciaire, 10 à 15 000 ans. On devrait être proche de la fin d'une autre. La Grande-Bretagne est redevenue une île, mais vous voyez aussi que Suède, Finlande et Norvège sont isolés du continent. Parce que la fonte des glaces a été telle, il n'y a quasiment plus de calottes glaciaires à cette époque-là, que la mer reprend cette surface et isole complètement la Scandinavie du continent européen. Et par la suite, très très rapidement, on repart sur une phase glaciaire, mais qui est une phase glaciaire différente, aussi intense en température que le stade 6. Ce stade 4, en revanche, est une glaciation qui vient de l'est et du nord, qui n'isole complètement, qui ne recouvre pas la Grande-Bretagne d'une calotte glaciaire. La Grande-Bretagne existe en tant que terrain émergé. Vous voyez qu'ici, vous avez le Doggerland, qui est complètement à pied sec. Donc, vous voyez, plaît-il ? Vous voyez que les modifications climatiques sont évidemment, c'est un altruisme, ont des conséquences extrêmement importantes sur le tracé des côtes, sur la flore et sur la faune, et donc évidemment sur les peuplements humains, vu que les préhistoriques dépendent totalement de la faune et donc de la flore, vu que la faune dépend de cette flore. Alors, passons maintenant aux données sur les peuplements paléolithiques. Vous avez vu que tous ces gens viennent d'Afrique, globalement, donc l'Afrique n'est pas sur cette carte, comme vous l'avez constaté vous-même, et il semble que le premier passage qui se fasse soit relativement ancien, vu qu'on a déjà des hominidés en Asie, dans la région de Pékin, à 1,8 million, peut-être même 2 millions. Et quoi qu'il en soit, ici, en Géorgie, sur un site qui s'appelle Dmanisi, nous avons des bonhommes à 1,8 million. En théorie, la Géorgie n'est pas en Europe. Mais bon, on va les accepter exceptionnellement parmi nous et on va considérer que c'est le premier site de peuplement européen. Ici, à Dmanisi, je vais y revenir. Par la suite, nous avons ici, à l'extrémité de la péninsule de Taman, un site qui s'appelle Bogatiri, vers 1,6 million. Et ici en Bulgarie, un autre site, Kozarnica, vers 1,6 million, 1,4 million. On se déplace toujours vers l'ouest, on retrouve un site ici qui s'appelle Pro, en Italie, Basilicate, 1,4 million, 1,3 million. Chez, au sud de l'Espagne, on est à 1,4 million, 1,2 million. Et un site extrêmement important, Atapuerca, 1,2 million. Plusieurs choses. La première, c'est que, comme vous l'avez entendu, je reste relativement flou sur les datations. Il faut savoir que sur des époques aussi anciennes, les datations sont assez complexes à mettre en œuvre et on se base sur plusieurs méthodes dont on croise les résultats. Comme ça ne colle pas toujours parfaitement à la journée près, c'est pour ça qu'on peut avoir des résultats qui flottent sur 50 000 ans, voire 200 000 ans. Mais on est au-delà d'un million, ce n'est pas très très grave. Surtout que, globalement, ça colle, si je peux me permettre l'expression, avec l'hypothèse d'une sortie d'Afrique vers 2 millions, 1,8 million, 2 millions, une arrivée d'une population ici à 1,8 million, et puis un déplacement depuis ici, sans doute par la plaine ukrainienne, passant ici, Bogatiri, Kozarnica, et en longeant par la suite le tracé des côtes méditerranéennes pour arriver à Pro, Orché et remonté vers Atapuerca. Les quelques données dont nous disposons semblent quand même montrer un déplacement de l'Est vers l'Ouest pour ce qui concerne l'Europe depuis un point central qui se trouverait ici, dans le Caucase. On ne va pas s'occuper de l'Asie aujourd'hui, on va rester de l'Europe. Donc, déplacement Est-Ouest, assez anciens, même s'ils ont mis 400 000 ans pour arriver jusqu'en Espagne. Déplacement est-ouest, depuis le Caucase, assez ancien. Déplacement certainement le long des côtes, ou en tout cas pas très éloigné. Et quoi qu'il en soit, avec une constante, c'est que tous les sites se trouvent sous le 44e degré de latitude nord. Voici le site de Dmanisi. Comme vous le voyez, on est sur un bourg médiéval, avec les restes d'un château médiéval. Nos collègues géorgiens, en fait, ce sont des historiens et des archéologues géorgiens de l'Université de Tbilissi qui fouillaient ce château médiéval. Et en creusant un peu, ils sont tombés sur ceci, ce qui n'est évidemment pas du tout médiéval. Ils ont donc fait appel à leurs collègues préhistoriens de l'Université de Tbilissi. Un monsieur qui s'appelle Lordi Kapanidze et qui a trouvé ce matériel lithique qui est fort important, vous le voyez, je ne vais pas faire un cours de technologie lithique, loin de là, mais c'est un matériel lithique relativement frustre, ce sont des galets à peine aménagés qui s'appellent de l'Oldovaïen, c'est une culture qu'on appelle de l'Oldovaïen, qui provient du site d'Oldovaï, le site d'Oldovaï ça se trouve au Kenya, ça correspond aux datations plus ou moins, si ce n'est qu'en Afrique, 1,8 million, on est à la fin de cet Oldovaïen, et il y a déjà une autre culture lithique avec des bifaces, ça je pense que vous savez ce que sont des bifaces, d'une culture qui s'appelle l'Acheuléen, du quartier Saint-Acheul, c'est là qu'on bombe le torse, à Amiens. Et il semble que, comme il n'y a pas du tout de biface Erdmann ici, que les gens qui étaient Erdmann ici étaient des tenants de la culture oldovaïenne, donc avant 1,8 million, ça correspond aussi, la culture correspond aux datations radiométriques qui ont été effectuées. Donc on est avant 1,8 million Erdmann ici. Ça, d'un point de vue culturel, ça colle avec ce type de datation. On a retrouvé 5 individus à Erdmann ici, les voici. Bon, celui de gauche, il lui manque un petit morceau. En revanche, les 4 autres sont bien conservés, voire même très bien conservés. Ce qui est étonnant parmi ces individus, c'est que quand on les étudie de près, on se retrouve avec une très grande variabilité de ces individus. Très grande variabilité, et c'est extrêmement étonnant. On ne sait pas si cette variabilité est due au problème du sexe, sont des hommes, des femmes, on n'arrive pas à le savoir à ce jour. Est-ce que c'est une variabilité à l'intérieur de cette espèce qu'on a du mal à qualifier, à classifier? Donc, pour certains, ce serait des Homo habilis, mais c'est assez embêtant parce qu'ils ne présentent pas toutes les caractéristiques d'Homo habilis. Et puis, ils sont dans cette culture sans biface, donc c'est une théorie qui se base que sur du culturel. Pour d'autres, ce serait des Homo ergaster, mais là aussi, ils sont assez différents des Homo ergaster africains et ils n'ont pas de biface, donc ça serait assez curieux. Et donc, on les a qualifiés d'Homo georgicus. C'est en général ce qu'on fait quand on a du mal à classer un fossile hominidé. On crée un nouveau taxon. Ça permet d'éviter les discussions sur le sujet. Quoi qu'il en soit, bon, voilà à quoi ils pouvaient ressembler. Je pense qu'on se retournerait quand même sur le croisé dans le bus. Voici la reconstitution d'un Homo georgicus. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, enfin avant l'introduction, un de ces Homo georgicus a été soigné par ses congénères, il a été nourri par ses congénères, comme le montre l'état lamentable de sa dentition. Un petit rappel phylogénétique, nous sommes donc ici, à la sortie de l'Afrique, par des Homo ergaster. C'est peut-être en cette sortie de l'Afrique qu'il y aurait eu cette variabilité interne à Homo georgicus, qui est un taxon unique dans l'état actuel des choses. Alors, on va passer directement. Donc là, je vous remets la diapositive de carte, on était ici, à Erdmann ici. On va passer directement ici à Atapuerca, parce que, à notre grand désespoir, sur les sites de Orche, Pro, Zarnica et Bogatiri, il n'y a pas de fossiles humains. On date les sites grâce au matériel archéologique qui ressemble à ça. Donc ça ressemble à ce qu'on avait à Erdmann ici et grâce à la stratigraphie, donc la géologie, ainsi que les datations absolues. Nous voici dans la Sierra d'Atapuerca. Ça se trouve à quelques kilomètres au nord de Burgos. Si vous passez des vacances en Espagne, il faut absolument passer à Burgos. Non seulement la ville est magnifique et très sympathique, et en plus, il y a un superbe musée d'archéologie et de paléontologie à visiter, où sont exposées d'ailleurs les découvertes de ce site d'Atapuerca, qui a été découvert un peu par hasard, cette diapositive-ci pour vous expliquer la chose, grâce au creusement d'une tranchée de chemin de fer que vous avez ici. Au XIXe siècle, il y avait des exploitations dans la Sierra d'Atapuerca et une compagnie a décidé de creuser, de poser un chemin de fer et a donc creusé complètement la Sierra pour poser les rails. En creusant ce chemin de fer, ils ont coupé un certain nombre de grottes qui étaient remplies d'ossements d'animaux essentiellement. Et dans les années 80, des archéologues espagnols ont décidé de retourner voir ce qui se passait. Il y avait déjà eu des publications au XIXe siècle, mais il n'y avait pas eu de découverte d'ossements humains. Le site d'Atapuerca est maintenant étudié en continu depuis une vingtaine d'années, avec des découvertes exceptionnelles, tout à fait fabuleuses, et plus particulièrement 3 sites qui sont des sites majeurs. Le premier, dans l'ordre Cima d'Elefante, qui se trouve là-bas, où on a découvert, les collègues espagnols ont découvert quelques fossiles humains autour de 1,2 million, 1,3 million. Le second s'appelle Grande Dolina, la Grande Doline, qui se trouve ici, Là également, il y a des fossiles humains. Lesquels fossiles humains sont, plus récents, autour de 800 000. Mais là, il y a plus de fossiles humains, et donc là, on est arrivé à déterminer un taxon qu'on appelle Homo antecessor, je vais y arriver. Et enfin, un troisième site, dont on parlera pas aujourd'hui, puisque ça mériterait une conférence à lui tout seul, Cima de los Huesos. Là, on est autour de 400 000, et on a près d'une trentaine de fossiles bien conservés qui ont été retrouvés ici au fond, jetés sans doute dans cette cheminée karstique. Il s'agit peut-être d'un geste funéraire, des plus anciens gestes funéraires de l'humanité. On verra ça une autre fois, si vous le voulez bien. Un tranché de chemin de fer. Et voilà, et la mandibule du site Cima del Elefante. Donc voilà la stratigraphie. Et la mandibule a été trouvée ici, dans les couches vraiment inférieures. Il y a un petit bonhomme d'ailleurs qui est dessiné là. Dans les couches vraiment inférieures de Cima del Elefante. Alors la photo n'est pas terrible, j'en suis désolé, je suis un très mauvais photographe. Cette mandibule est datée sur 1,2 million. Alors c'est très modeste, évidemment, mais malheureusement, c'est souvent comme ça qu'on retrouve les choses et il faut faire avec. On est ici, sans doute, au début, ce qu'est le taxon Homo antecessor. A certainement disparu sans donner une lignée définitive, qui provient, lui, peut-être d'Homo georgicus, ce bonhomme qu'on a vu à Dmanisi il n'y a pas longtemps maintenant. Notre ami de la Cima del Elefante, donc 1,2 million, que voici plus ou moins représenté, hein, ce sont évidemment des reconstitutions, on le voit en train de tailler un chopper, c'est-à-dire ses outils dits oldovaïens, qui produisent quelques éclats utilisés et qui produisent des pierres touchées, exactement les mêmes, à peu de choses près, que celles qui ont été découvertes à Dmanisi. Donc on est vraiment dans le même contexte culturel que les hommes de Dmanisi. Ce site, Cima del Elefante, est pour l'Europe occidentale, et même pour toute l'Europe, si on considère que la Géorgie n'est pas en Europe, le site le plus ancien avec des hominidés connus à ce jour, ce qui rend nos amis espagnols très fiers, ils en ont fait même une bière. Voilà, voilà. Alors, on va un peu quitter ce secteur-là pour remonter un peu vers le nord de l'Europe, la Middle Europa, si je peux me permettre l'expression, en termes de latitude et pas en termes de longitude. Donc, on quitte le bassin méditerranéen sur la période suivante. Période suivante qui s'étale depuis environ 1,000,000 d'années jusqu'à environ 600-650 000. Et là, on constate qu'il y a des incursions vers le nord de l'Europe qui commencent à être un peu plus fréquentes. Donc, je vous ai remis Kozarnica et Atapuerca pour que vous rappeliez où ça se trouve. Et on retrouve, dès autour du million d'années ou vers 900 000 ans, trois sites, importants, qui sont Korolevo, en Ukraine, Lunery, chez nous, en France, et à Pittsburgh, en Grande-Bretagne. Ces trois sites-là sont datés d'environ 1,000,000 à 850 000 ans. Donc, on voit que dès des époques aussi éloignées et dans des contextes climatiques pas simples, il y a déjà des hominidés qui arrivent à remonter et à passer cette barrière du 44e latitude nord. On est quand même, certes, dans des périodes tempérées, mais ce sont des périodes tempérées, parfois comme celle-ci ou comme celle-ci, moins chaudes que maintenant. Si on prend par exemple le site d'Apisburg, qui se trouve ici, qu'on va détailler un peu par la suite, l'étude des coléoptères qui ont été découverts sur le site archéologique montre que la température était de 1,5 degré plus faible que maintenant. Ce qui, pour des gens qui ne maîtrisaient pas le feu, devait quand même poser un certain nombre de problèmes. Sur une période un peu plus récente, autour de 700 000, bien, on trouve des sites à Field, toujours en Grande-Bretagne, et on retrouve le site à Abbeville, à Moulin-Quignon, qui tourne autour de 650 000, 700 000 ans. Ici, nous sommes sur le site de Lunery, c'est dans le Cher, et c'est une terrasse du Cher. de la rivière Le Cher. Il y a une photo, une vue du site archéologique ici, la stratigraphie et le matériel archéologique qui a été découvert sur ce site de Lunerie. Il n'y a pas de fossiles sur ce site-là. Mais on est toujours sur le même mode dit holdovoyen, le mode 1, en termes de technologie éthique. Donc, des industries très, très, très archaïques qui ont disparu depuis 800 000 ans en Afrique. Et ça pose d'ailleurs une question. Pourquoi est-ce que l'Europe a conservé pendant 1 million d'années des industries sans bifaces, alors qu'en Afrique, depuis 1,8 million, il y avait des bifaces et ce type d'industrie était abandonné? L'arrivée des bifaces en Europe, c'est autour de 700 000 et 50 000. Donc pendant plus d'1 million d'années, l'Europe a été totalement isolée du continent africain, vu qu'il n'y a pas eu de transfert de technologie. Et ça peut peut-être expliquer la présence de cet homo antecessor qui disparaît vers 700 000, 600 000, sans doute remplacé par Homo heidelbergensis, lui-même provenant a priori d'Afrique. On passe maintenant à Apisburg, un site extrêmement intéressant et extrêmement important. Vous avez ici une vue du village d'Apisburg, qui se trouve sur la côte est de l'Angleterre, dans l'Essex. Ce village d'Apisburg est célèbre pour plusieurs raisons. La première, chère à mes yeux, c'est que c'est le plus ancien site découvert au nord de la Loire. Mais pour les habitants du coin, c'est une autre problématique, c'est celle-ci, c'est le recul des côtes par érosion successive. Donc là, on voit trois photos, 96, en 2006, en 2012, avec le recul des plages. Là, on a, par exemple, l'ancienne plage qui se voyait encore ici en 2012. Et c'est assez catastrophique pour nos amis anglais. Ici, il y avait un phare qui a dû être démoli parce qu'il était en train de... Néanmoins, un autre ami, Nick Ashton, qui est le monsieur qui se trouve ici en haut à droite, qui est conservateur au British Museum, était en train de travailler sur ce secteur d'Apisburg parce qu'il y a des couches fossiles. Et il a découvert ce site avec du matériel comme à Lunerie, comme à Dmanisi, holdovaïen et biface, donc très archaïque, sur cette plage fossile. Et au-delà de cela, il a trouvé des traces de pas. On avait une ici à droite, j'en ai mis qu'une. Il y a exactement 152 traces de pas qui correspondent au déplacement sur quelques mètres conservés. Il y a environ 850 000 ans, 900 000 ans peut-être, de 5 individus, dont grâce aux dimensions des pieds, on arrive à voir qu'il y avait a priori 3 adultes et 2 enfants. C'est évidemment exceptionnel. On a des traces de pas dans un site africain au Kenya qui sont sur du 3 millions d'années, mais à part ça, c'est quand même rarissime. Et sur ce site de Apisburg, c'est pour l'Europe, c'est quelque chose de tout à fait fabuleux. L'autre donnée de traces de pas qu'on a, c'est en Normandie, mais c'est beaucoup plus récent, c'est du Néandertal vers du 120 000 environ. Là, c'est 850 000 ans, 152 traces de pas, 3 adultes, 2 enfants. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'ils étaient pieds nus. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans les phénomènes anthropologiques. Voilà à quoi ça devait correspondre, notre passage de ces hominidés. Donc, un petit groupe d'hominidés qui devait certainement charogner ou chasser, on ne sait pas trop, le long de la Tamise. Donc, on est ici, voici Apisburg. La Tamise ne se jetait pas ici à l'époque, elle se jetait beaucoup plus au nord, avec cette rivière, la Bitum, qui n'existe plus évidemment. Et le site d'Apisburg était proche de la mer, à l'embouchure de la Tamise. Vous voyez ici également, à ce moment-là, donc voici la Somme, nous on est là quelque part, enfin moi je suis là quelque part en tout cas, à ce moment-là, lors du site d'Apisburg, l'Angleterre était rattachée, il faisait plus froid que maintenant, et le niveau des mers était plus bas. Il faut quand même imaginer, ces hommes arrivaient à vivre dans un climat plus froid que le nôtre, froid au point que la Manche avait baissé de 40 à 50 mètres. pas de traces d'utilisation du feu. C'était sans doute une incursion, relativement brève certainement, peut-être à une bonne saison, d'un groupe qui venait certainement de plus bas vers le sud. On arrive maintenant de chez nous, à Abbeville. J'ai fait une petite erreur dans la diapositive, je m'en excuse. On est ici sur Moulin-Quignon, donc là j'ai un peu mélangé toutes les dias, je le réparerai tard. À Moulin-Quignon, on voit quand même un peu les photos. Moulin-Quignon est un site célèbre, hein, il a été découvert par Boucher de Tarte dans les années 1850-1860. Et il y a eu des polémiques infernales sur un problème d'un fossile humain qui n'en est pas un au final. Mais néanmoins, Bouchet avait trouvé des bifaces comme ceux que vous avez là. Et des campagnes ont été réalisées il y a quelques années, vérifiées la fouille de Bouchet de Perte. Et il s'est avéré que nous avons retrouvé également du matériel archéologique. Et cette fois-ci, on arrive à le dater précisément. Et là, on est sur environ 650 000. Donc, pour le nord de la Loire, on est sur le site actuellement le plus ancien pour toute la région au nord de la Loire, à l'exception évidemment d'Appisburg. Vous avez vu que le site de Peckfield, en Grande-Bretagne, devait être plus ou moins contemporain du site d'Abbeville-Moulin-Quignon. Voilà à quoi ça devait correspondre pour la phase suivante. On est juste à la limite de la fin du site de Moulin-Quignon. Et sur une période postérieure, qui s'appelle le stade isotopique 13, qui se trouve ici. C'est un petit réchauffement entre deux glaciations, celle du stade 14 et la glaciation très violente du stade 12, ici. On n'a pas de détails précis de cette glaciation du stade 12, mais elle ressemble fortement à la glaciation du stade 16. C'est pour ça que je vous ai laissé le tracé de la calotte et des côtes. Ici, on a un certain nombre de sites. Nous, on va s'intéresser, bon, il y a le site de Mauer, qui se trouve à Heidelberg, et qui a donné son nom à l'espèce Homo heidelbergensis, vu qu'on y a retrouvé en 1909 une mandibule, Carlisch, Mien et Boxgrove. Ici, on est à Amiens, pour ceux d'entre vous qui connaîtraient peut-être un peu Amiens. Vous avez la route de Rouen, qui se trouve ici. Ici, le boulevard du Général Foy. Bon, je vous passe les lignes. Et ici, il y a un petit truc qui s'appelle la rue du Manège, où a été construit il y a quelques années un lotissement, une résidence. Et nous étions allés voir ce qui s'y passait avant la construction, et nous sommes tombés sur un site archéologique. Voici la stratigraphie, c'est le point rouge qui est là. Et ce site archéologique, donc voici la stratigraphie complète, hein. Donner du matériel archéologique que voici. Là, on n'est plus, entre guillemets, oldovaïen, on est déjà sur autre chose. Je vous passe les détails technologiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce site, grâce aux études stratigraphiques et à tous les prélèvements qui ont pu être faits, est parfaitement daté entre 540 000 et 581 000. Vous avez ici la datation pour une méthode de datation de l'illumination du quartz. Donc, on est entre 550 et 600 000 ans, en plein centre d'Amiens, un site archéologique de ce type-là. Un site très important, c'est Boxgrove, ici, à l'extrême sud de l'Angleterre. Un gigantesque site dans une carrière que voici. Et ce site a livré des dizaines de bifaces. Vous en avez un ici à l'écran. Voici une sélection de ces bifaces sur une table au British Museum. La fouille est en cours ici. Mais a livré également un fémur, vous avez là. Pardon. Et c'est un fémur d'Homo heidelbergensis. Là, on est sur du 500 000 environ. Homo heidelbergensis, qui est l'ancêtre de Néandertal et l'ancêtre d'Homo sapiens, les deux branches dérivent d'Homo heidelbergensis, s'était implanté sur une rivière au pied d'une falaise sur Boxgrove pour tailler du silex, en faire des bifaces, et chasser, consommer des chevaux dont on a retrouvé énormément de... Bon. J'avance dans le temps. Nous arrivons maintenant, un peu plus tard, au stade 11 jusqu'au stade 7. Au stade 11, qui est ici, qui est une période très chaude, à peu près comme maintenant. Vous avez tous les petits points verts qui sont là. J'ai laissé systématiquement la limite des glaciations, vous comprendrez pourquoi. On a tout ça ici, au stade 11, ce qui semble déjà montrer une plus importante densité d'occupation. Alors, je me suis limité aux sites au nord de la Loire. Je n'ai pas mis les sites au sud de la Loire. L'occupation du bassin méditerranéen est désormais pleine. Au stade 10, qui est une glaciation entre les stades 11 et les stades 9, n'a pas de site archéologique, il faisait trop froid sans doute, mais au stade 10, les sites ont, c'est les points jaunes, les mêmes répartitions géographiques que ceux du stade 11 pour le stade 9. Et au stade 7, il y a encore beaucoup plus de sites et on voit que globalement, ils ont des répartitions qui sont relativement semblables au stade isotopique précédent. Ce qui signifie que sur la période entre 150 000 à quelque chose près et 200 000, les hominidés d'époque non seulement occupent les mêmes territoires, mais également multiplient le nombre d'occupations archéologiques, le nombre de sites, ce qui semble donc signifier une occupation plus continue, plus pérenne de cette frange nord de l'Europe entre le 45e degré de latitude et le 52e degré de latitude. On va passer au stade suivant, donc retenez que c'est au stade 11 que ça change. Ici, on est au stade 6, qui est un stade froid, avec une glaciation, comme vous le voyez ici, qui vient de l'Est, vient de la Sibérie et de la Scandinavie. Voici l'étendue de la calotte glaciaire. On a quand même des sites archéologiques, en beaucoup de sites dans le nord de la France. En revanche, disparition totale de sites archéologiques en Grande-Bretagne. Phénomène intéressant. Stade 5 fait plus chaud. On a des sites archéologiques un petit peu plus au nord. Ils ne reviennent pas en Grande-Bretagne, même s'il fait plus chaud. Phénomène intéressant. Question. Enfin, on termine la préhistoire jusqu'à Homo sapiens environ, avec tous ces sites archéologiques, jusqu'à environ 40 000 ans. Surtout dans nos régions, nord-ouest de la France, très très forte densité d'occupation, mais avec des hiatus à la fois chronologiques et géographiques. On constate par exemple que la Grande-Bretagne est totalement vide d'occupation préhistorique. Et il faut attendre la toute fin de la préhistoire des Néandertaliens pour retrouver deux pauvres petits sites archéologiques dans l'extrême sud de la Grande-Bretagne. C'est certainement lié au problème de la variation de la Manche, de sa disparition lors des glaciations. On va voir ça après. Alors, les premiers peuplements paléolithiques, on va discuter un peu les données maintenant. Et je vous rassure, votre verre est presque terminé. Des débuts des peuplements, c'est-à-dire autour de 1,8 million à Dmanisi, si on considère que Dmanisi est en Europe, jusqu'au stade 12 inclus, c'est-à-dire autour de 430 000-450 000, les peuplements centrent autour de la Méditerranée, avec, comme on l'a vu, quelques incursions vers le nord de l'Europe. Ce sont les sites d'Abbeville, d'Apisburg, de Peckfield, d'Amiens, par exemple. Mais ce sont des incursions qui sont très limitées. Je vous ai mis les petits points bleus pour vous montrer que ces incursions se trouvent sur des plages de temps, mais c'est limité. J'en profite pour vous montrer ceci avec en noir les polarités positives et en blanc les polarités négatives, et en noir les polarités négatives. Le pôle magnétique s'inverse de temps en temps et ça nous permet à nous aussi d'avoir une plus grande facilité de dater les sites. Quand on est en polarité négative ou en polarité positive, ça nous fait des repères dans le temps également. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant 100 000, 450 000, des occupations Rennes dans le sud, autour de Méditerranée, mais certainement en pointillé dans le nord, en profitant des phases les moins froides. En revanche, après le stade 12, à partir du stade 11, donc quelque part ici, excusez-moi, des occupations plus continues dans le nord de l'Europe. Dans le nord de l'Europe, c'est en dessous du Danemark, hein, ça reste toujours en dessous du Danemark. Et la question est pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qui permet aux hominidés de conquérir et surtout de rester sur ces zones un peu septentrionales ? Trois facteurs, sans doute, sont mis en œuvre. Le premier, c'est, après son arrivée 150 000 ans auparavant, moins peut-être, la standardisation et la généralisation des bifaces. L'outil qui est plus performant et qui aide sans doute les hominidés à mieux prendre pied et prise sur leur environnement. Deuxième facteur qui est évidemment essentiel, c'est autour de ces années-là, vers 400 000, 450 000, la généralisation d'utilisation du feu. C'est à partir de ce moment-là qu'on trouve de plus en plus de sites archéologiques avec des traces d'utilisation du feu qui devient véritablement un standard technologique. En ces années-là, on a également un troisième phénomène, c'est l'émergence d'une nouvelle lignée humaine, spécifiquement européenne, c'est l'homme de Néandertal. Et ces trois phénomènes, la technologie du feu et une nouvelle humanité qui émerge, sont autour de 130 000, 350 000. Sans doute même avant 350 000, disons autour de 400 000, en plein dans ce stade isotopique climatique très long, ce qui fait 70 000 ans environ. Et c'est rare d'avoir des réchauffements climatiques aussi longs, garder l'épaisseur du temps de ce stade 11 par rapport aux autres. Un peu après, on a une nouvelle technologie qui arrive et qui supplantera le biface, environ 60 000 ans après, qui s'appelle la technologie Levallois, mais c'est peut-être déjà à ce moment-là. Donc là, on aurait trois facteurs, Néandertal, le feu utilisé de manière standardisée, le biface généralisé, qui pourraient expliquer l'occupation plus pérenne du nord de l'Europe. Les environnements sont extrêmement variés, on a déjà vu ça tout à l'heure, c'est la même diapositive, en fonction des glaciations et des interglaciaires. Et après le stade isotopique 9, les occupations sont de plus en plus nombreuses et continues, on l'a vu sur les données, dans des environnements de plus en plus variés, vu que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, de plus en plus forte amplitude dans les phénomènes glaciaires et interglaciaires. Donc ça bouge, entre guillemets, ça bouge beaucoup. Et donc ça permet de s'implanter dans des environnements plus profitables de manière systématique. Et il faut savoir que les environnements les plus peuplés par les paléolithiques sont les environnements qui sont à la transition de la fin d'une période glaciaire et du début d'une période interglaciaire. Ce n'est pas les environnements très froids qui sont peuplés, parce que personne ne peut y vivre. Ce n'est pas non plus les environnements très, entre guillemets, chauds et humides, parce que la grande faune n'aime pas les environnements chauds et humides. La grande faune préhistorique apprécie les steppes fraîches et sèches. Et c'est là qu'on retrouve les troupeaux de mammouths, de bisons, de rennes essentiellement, de chevaux, de rhinocéros laineux, etc. etc., etc. Donc, ces plages qui durent plusieurs milliers d'années à chaque fois de transition entre triaire et interglaciaire, ça dure environ 40 000 ans, ces plages sont des environnements très favorables à la dispersion des groupes et, dans notre cas, surtout vers le nord et vers l'est. Ces transitions-là, qui sont des forêts ouvertes et des steppes arborées, avec beaucoup de biotopes différents, permettent aux préhistoriques de partir en balade assez facilement. Cependant, il y a quand même un petit souci, c'est que avant nous, avant les Homo sapiens, on n'a aucune trace réellement incontestable d'occupation au-delà, au nord du 53e degré de latitude. Et ça correspond globalement aux à l'extension des environnements de steppe. Quand la steppe se raréfie, quand on arrive vers des steppes très froides, comme ce qu'on peut connaître dans le nord de la Sibérie actuellement, on n'a pas de Néandertaliens ni d'Homo heidelbergensis. Alors, les petits points rouges, la zone grise que vous avez là, c'est l'extension de Néandertal. Hein, on voit qu'il reste sur ce sac troisième degré, c'est la petite ligne qui est là, hein, qui est, il reste globalement en dessous. Quelques sites. Et les points rouges, c'est des sites qui sont certains néandertaliens, mais qui sont très contestés. Alors ici, on est au Danemark, on a quelques pièces archéologiques, on ne sait pas trop ce que ça donne. Ici, en Finlande, il y a un site dans une grotte qui est vraiment un point totalement unique, mais j'y ai travaillé sur ce site, et je suis extrêmement dubitatif, je ne suis pas le seul d'ailleurs, pour considérer que ce site est vraiment un site néandertalien, préhistorique, ça pourrait être n'importe quoi. Et on n'a aucune datation, c'est un vrai problème. Et ici, on a un site dans l'extrême nord de la Russie, pas loin du 60e degré de latitude, qui s'appelle là, qui est un site un peu plus sérieux que la grotte du Loup, ici en Finlande, mais qui est quand même très, très, très contesté et qui présente une technologie qui pourrait à la fois être Sapiens et Néandertal. Et le problème, c'est qu'on n'a pas de datation sur ce site. Donc, pour le moment, on n'a aucune trace incontestable d'occupation avant Homo sapiens au nord de ce 53e degré de latitude. Homo sapiens arrive très vite, lui, il arrive jusque-là. Mais les autres, ils n'y arrivent pas. Un exemple intéressant, les bras de mer. On n'a pas plus incontestable, avant Homo sapiens, de traverser de bras de mer, surtout par les Néandertaliens. Alors, si on prend les grandes îles méditerranéennes que vous avez ici, on n'a rien contestable avant Homo sapiens. Alors, il y a beaucoup de discussions qui sont souvent d'ailleurs publiées dans des journaux en sensation plus que dans des revues scientifiques. Il y a eu des tentatives de trouver des sites anciens en Sardaigne, un endroit qui s'appelle Perfugas, que je connais, j'y ai travaillé, ça ne colle pas, il n'y a rien de très clair. En Crète, pareil, ça ne colle pas. Quoi qu'il en soit, on n'a pas dans les grandes îles méditerranéennes de traces archéologiques anciennes. Et pourtant, ce sont des secteurs qui sont abondamment documentés et très fouillés. Donc, je pense qu'on aurait quand même trouvé des trucs. Deuxième chose intéressante, c'est le problème de la Grande-Bretagne. Vous avez vu sur les cartes qu'elle est parfois occupée, parfois pas. Donc, voilà en gros à quoi ça correspond, l'occupation de la Grande-Bretagne. Ici, vous avez le nord-ouest de l'Europe. Il y a parfois quelques hiatus d'occupation quand il fait très froid, ici ou comme ici. En revanche, mais dès que ça se réchauffe, tout de suite, les hommes reviennent. Tout de suite, ils reviennent. Et même parfois, quand il fait froid, comme ici, il y a quand même des humains. En revanche, en Grande-Bretagne, il y a un coup de froid ici, à la fin du stade 7, début du stade 6. Ouf, il n'y a plus du tout d'humains en Grande-Bretagne et ils ne reviennent pas, encore de manière extrêmement faible, avant les années 40 000, où ils sont très vite après supplantés par Homo sapiens dès moins 35 000. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais selon moi, ma théorie, c'est que au stade 6, ici, c'est une glaciation très violente. La Grande-Bretagne n'est pas occupable, parce qu'elle est quasiment entièrement recouverte de glace. Et ici, au stade 5, c'est le site de Caour, à côté d'Abbeville, le réchauffement est très brutal, la fonte des glaces est extrêmement rapide, et la Manche se crée sur centaines d'années. Et sans doute, les Néandertaliens ne sont pas arrivés suffisamment tôt profiter du pont terrestre qui relie encore, et de manière extrêmement brève, la Grande-Bretagne au continent. Et donc, je pense que Néandertal n'était pas en mesure, pour des tas de raisons, cognitives ou autres, je ne sais pas, de fabriquer des bateaux, des pirogues, des choses de ce type-là, qui lui auraient permis de traverser la Manche et de réoccuper la Grande-Bretagne. Peut-être qu'il se sentait très très bien en Europe continentale, et quoi qu'il en soit, on a déjà là un néo-Brexit. Si on prend les occupations sur le territoire qui s'appelle maintenant la France et qu'on compare le sud-ouest qui est très documenté et le nord-ouest qui est très documenté aussi, on constate qu'il y a des différences d'occupation. Donc là, vous avez une proportion de sites en rouge, c'est le nord-ouest, en bleu, c'est le sud-ouest. Il y a plus de sites dans le sud-ouest, ce qui n'est pas illogique, évidemment. On a quand même beaucoup de sites dans le nord-ouest. Mais par moment, j'ai mis les températures ici, température moyenne annuelle en degrés. Amiens, on est à 10,3 température moyenne annuelle. Vous voyez qu'ici, il faisait plus chaud que maintenant. Là, on tombe à zéro, etc., etc., etc. Bon. Malgré tout, il y a quand même des humains qui arrivent à subsister dans ces conditions extrêmement rigoureuses. Moins c'est froid, si je peux me permettre l'expression, plus il y en a. Donc nous, on a 10 degrés. Là, par exemple, cette période qui s'appelle le 5C, on est à 6 degrés, il y avait pas mal d'habitants. Le 5A, 5 degrés au lieu de 10 maintenant, beaucoup plus froid que maintenant. Pas mal d'occupations aussi. Ça, c'est des climats typiques de steppe avec beaucoup de troupeaux de mammifères et donc beaucoup d'occupations archéologiques. Forte densité, à une échelle toute relative, hein, on dit une forte densité de population. Ça signifie pour Néandertal, sur le territoire français, il y a environ, comme ici, hein, il y a environ 70 000 ans, ça signifie peut-être 20 000 Néandertaliens sur tout le territoire national. Hein. En revanche, quand il fait très froid, eh ben, ça diminue fortement, soit même il n'y a plus d'occupation du tout. Et ici, on a l'extrême fin de l'époque néandertalienne, au début des Homo sapiens. On constate que les variations sont extrêmement violentes et très brèves, et ça nuit aux néandertaliens qui est ici complètement en voie d'extinction. Donc voilà un peu comment ça fonctionne, avec un dernier phénomène qui est peut-être des extinctions régionales. Comme ça existe pour beaucoup d'animaux, on pense que Néandertal ou d'autres partent vers le sud quand ça se réchauffe, remontent vers le nord quand ça vers le sud pardon quand ça refroidit et remontent vers le nord quand ça se réchauffe. Pour remonter vers le nord quand ça se réchauffe, c'est sans doute vrai, même si on a des traces aussi qu'ils arrivent de l'est. Mais repartir vers le sud quand ça refroidit, c'est pas sûr, parce qu'on retrouve pas les mêmes phénomènes culturels. Donc, c'est peut-être des populations qui disparaissent sur place, qui connaissent des extinctions régionales, locales, et qui sont remplacées par d'autres populations quand les territoires sont de nouveau accessibles. Concluons. Alors, avant un million, ça se limite, les occupations sont limitées au bassin méditerranéen. Entre un million et environ 450 000, les hominidés commencent à faire des incursions vers le nord, mais il n'y a pas d'occupation pérenne. Après 450 000, les occupations sont plus importantes, de plus longue durée, systématiquement en contexte tempéré ou en contexte tempéré froid, c'est-à-dire les contextes de steppe qui sont très favorables à l'exploitation de la grande faune. On n'a pas des traversées de bras de mer jusqu'à Homo sapiens. Il semblerait que ce soit nous, les Homo sapiens, qui inventons la navigation en haute mer. On n'a pas d'occupation évidente au-delà du 53e degré de latitude nord jusqu'à Homo sapiens une fois de plus. Donc on ne fait pas que inventer la navigation en mer, on invente également la conquête des très hautes latitudes. Et quoi qu'il en soit, pour toutes les populations qui sont succédées, entre Homo antecessor, Homo néandertalensis, en passant par Homo heidelbergensis, il semblerait que ces populations-là soient systématiquement cantonnées sur une aire inférieure au 53e degré de latitude nord. Voilà, ce que je vous remercie de votre attention. Je vais remettre la vision et je vous laisse contempler ce morphing, comme on dit maintenant, de notre très ancien devancier. Enfin, c'est le temps de poser vos questions si vous le souhaitez.
D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette conférence extrêmement riche, bien documentée, qui nous a permis aussi de voyager et puis surtout d'apprendre énormément d'éléments fort intéressants. On voit effectivement que c'est le résultat de plusieurs années de recherche, d'une collaboration fructueuse, j'allais dire, entre archéologues. Et puis, on se réjouit de voir aussi cette image qui est assez impressionnante. Alors, je vais laisser la parole donc aux collègues, si certains ont des questions. Alors, deux possibilités, soit vous intervenez dans le chat et si vous n'avez pas la possibilité d'activer votre micro, ou sinon vous activez tout simplement votre micro. Donc, alors, une question dans le chat, cette vidéo est-elle accessible pour la montrer à des élèves?
Ah oui, bien sûr. Le morphing que je suis en train de diffuser, avec difficulté d'ailleurs, oui. C'est celui-là dont vous parlez. Oui, bien sûr. Ça, frappe de force, c'est que je vous la ferai parvenir.
Oui.
Ah, parce que je ne sais pas comment faire pour diffuser ça. Donc, si je vous l'envoie à vous, je vous laisserai vous charger de la diffuser.
Oui, voilà. Après, on peut le voilà.
Là, on est sur Heidelbergien 6, on arrive à Neandertal, là, tranquillement. Après, le problème, c'est que, bon, moi, je les connais, ces jeunes gens, enfin, je les connais pas personnellement, évidemment, mais là, on arrive à nous, quoi. Oui. La difficulté, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas les noms à chaque fois, mais ça, je peux essayer de trouver une solution. Et voilà, et lui, c'est un collègue américain qui s'amuse à faire ça, moi, je trouve ça génial, mais bon.
Ah oui, oui,
c'est... Et là, il repart dans l'autre sens, le petit.
D'accord.
Ah, c'est sympa, oui. Hein, on fait des trucs sympas quand même.
Un collègue. Voilà. Ah oui, ben voilà.
C'est Dan Gersh, ouais, je vous ai laissé la référence.
Le lien, oui, de la vidéo.
Je vous l'enverrai.
Vous me l'enverrez, d'accord. Y a-t-il une autre réaction? Alors, est-ce qu'on peut évaluer le nombre d'hommes présents?
Sur les sites ou sur le territoire?
Sur ces sites.
Sur les sites. Alors, ça, c'est. Oui, on arrive à avoir des petites idées. Ça reste assez flou, hein, attention. Hein. On arrive à avoir des petites idées en fonction de plusieurs paramètres. Le nombre de restes qui sont retrouvés sur le site et qui sont en fait des choses qui sont abandonnées par les gens à l'époque. Hein, parce que nous, les archéologues, on fouille des poubelles, en fait. Hein. Le nombre de restes. À la fois en matériel, mais aussi de restes d'animaux, les ossements qu'ils ont abandonnés sur les sites. Donc, on essaye de faire de subtiles théories, de subtiles hypothèses pour se dire, voilà, on arrive en saisonnalité à voir qu'ils ont dû rester quelque chose comme un mois plutôt à l'automne. Ça, on arrive à le savoir, par exemple, en examinant les dents des rennes ou les dents des chevaux.
D'accord.
Parce qu'ils ont une croissance de dents, comme nous, hein, et grâce à ça, on arrive à avoir des idées sur la saisonnalité ou avec les bois, et des choses pareilles. On regarde également la surface du site, le nombre de restes qui sont abandonnés, puis on se dit, bah là, c'est peut-être un site sur lequel il y avait un petit groupe d'une vingtaine de personnes pendant un mois. Il y a d'autres sites qui sont des sites avec des fonctions très particulières. Par exemple, on peut trouver des sites archéologiques sur lesquels il y a un animal qui a été chassé, et découpé sur place. Et là, on sait que c'est une action très brève, hein, c'est quelques heures, de 2-3 personnes. Bon. Quoi qu'il en soit, on arrive à voir d'une manière plus large, c'est que premièrement, c'est des nomades, hein, c'est des gens qui bougent tout le temps. Deuxièmement, donc il n'y a pas d'occupation de plusieurs années au même endroit, hein, c'est au maximum quelques semaines. Deuxièmement, il y a plusieurs types de sites. Il y a des sites qu'on appelle des sites d'habitat qui sont plus importants en superficie, en durée d'occupation, et des sites très précis avec des fonctions très précises, tuer un animal, récolter du silex pour le tailler, etc., qui sont des sites d'occupation avec peu de monde. Troisièmement, à l'échelle d'un territoire comme la France, on estime qu'il y a quelques milliers, voire dizaines de milliers d'occupants, pas plus. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des gens qui ne produisent pas leur nourriture, qui dépendent de l'environnement, totalement. C'est à partir du moment où on produit de la nourriture qu'on commence à avoir des fortes explosions démographiques. Là, on est sur des chasseurs-cueilleurs, pas des agriculteurs. Quatrièmement, on a quand même une importante dans les sites archéologiques. J'avais publié ça dans un bouquin il y a quelques temps. entre les sites des Néandertaliens et les sites des Homo sapiens. Alors, on peut faire des comparaisons avec ces deux-là parce que c'est ceux qui sont les plus nombreux. Parce que faire des comparaisons sur un seul site, ce n'est pas très utile, quoi. Alors, les sites des Néandertaliens, on a l'impression que c'est des groupes plus petits. C'est des sites plus petits, plus brefs dans le temps. C'est peut-être des clans de 20 à 25 personnes, des choses pareilles. On a d'ailleurs un site en Espagne, El Cidron, où on a retrouvé un clan qu'on pense être quasiment complet de Néandertaliens. Il y a 3 hommes adultes, 3 femmes adultes, et de mémoire, 9 ou 10 adolescents et enfants. Et ils sont, en fait, ils ont été enfouis dans un effondrement karstique. Donc, c'est des petits groupes chez Néandertal. Chez nous, les sapiens, on a l'impression que c'est les plus grands groupes. Parfois même, pourtant, qui pouvaient rassembler 80, 90, voire 100 personnes. C'est peut-être parce que nous n'avons pas la même façon de travailler nos relations sociales que Néandertal. C'est peut-être chez nous une autre vision du monde, des choses et d'autres capacités cognitives. Ce qui a fait peut-être notre succès, c'est notre sociabilité et notre façon de communiquer, une meilleure façon de communiquer. C'est une hypothèse, hein, c'est évidemment une hypothèse, mais ça semble quand même correspondre à un certain nombre de paramètres archéologiques. Hein. C'est peut-être ça qui a fait notre succès. Ce qu'il faut quand même se rappeler, c'est que, j'ai publié ça dans le bouquin que vous avez cité en 2018, là. Dans les années, entre les années 50 000 et 100 000, il y avait 5 ou 6 humanités différentes sur la Terre, quoi. Nous, les sapiens, Néandertal, l'homme de Luzon, l'homme de Flores, l'homme de Denisova, peut-être encore des Homo erectus en Asie du Sud-Est, population fantôme qu'on ne connaît que par la génétique en Afrique centrale. Là, on n'a pas d'ossements, on n'a que de la génétique.
D'accord.
Et il s'avère que vers 35 000, 40 000, alors, allez, 35 000, l'affaire est faite, hein, l'affaire est pliée, il n'y a plus que nous. Tous les autres ont disparu. D'accord ? Donc la question qui se pose, ce n'est pas pourquoi Néandertal a disparu, parce que c'est une question qu'on pose souvent. La vraie question, c'est pourquoi nous, on a survécu, en fait. Qu'est-ce qui se passe chez Homo sapiens qui fait qu'on a résisté à tout ça et que nous, on s'en est sortis et pas les autres. Une vraie question. Alors, vous qui êtes géographe, vous avez peut-être aussi des discussions là-dessus, avec des systèmes de migration, des problèmes de population, des concurrences entre populations. C'est ce qu'on vit, hein, pour un certain nombre de populations animales actuelles. Avant le frelon asiatique qui supplante le frelon européen, il y a eu aussi l'écrevisse de Californie qui a quasiment supplanté l'écrevisse européenne dans nos rivières et nos ruisseaux, quoi. Sans qu'ils se battent, hein, c'est une concurrence économique qui supplante l'autre. C'est peut-être ça qui s'est passé. Peut-être aussi une faiblesse démographique chez Néandertal et une meilleure démographie chez nous. À terme, bah, sur 50 ans, ça ne se voit pas. Sur 5000 ans, ça commence à peser sérieusement. Et enfin, il y a peut-être aussi le fait que si Néandertal, c'est les petits clans, si on prend l'exemple d'El Cidron, 3 hommes adultes, 3 femmes adultes, une forte consanguinité, vu que les 3 hommes adultes sont des frères ou des cousins, les 3 femmes adultes, en revanche, sont... extérieur au clan, donc c'est un système patrilocal, donc c'est les femmes qui bougent, qui changent de clan, sans doute des phénomènes d'échange, hein. Mais malgré tout, on a des traces avec beaucoup de consanguinité, par exemple en Europe orientale, chez les Néandertaliens, où on a même des enfants résultant d'une union entre un père et sa fille. Donc un système très consanguin, avec toutes les difficultés génétiques qu'il peut y avoir derrière, évidemment. Et une fois de plus, c'est les petits groupes. Donc sur le groupe d'El Cidron, il y a 3 femmes adultes. Les chasseurs-cueilleurs font peu d'enfants, parce que comme on vit sur l'environnement, ce n'est pas la peine d'en faire trop, parce qu'on n'arriverait pas à les nourrir. Donc, il y a une limitation des naissances naturelles, voire même artificielles. C'est des gens qui connaissent parfaitement la nature, et donc qui connaissent toutes les techniques et les plantes abortives. Mais sur un groupe de 3 femmes adultes, il y en a une couche, ce qui arrive. Il y en a une qui meurt de septicémie parce qu'elle s'est blessée, et ça y est, le renouvellement, il n'est pas assuré. Et le clan, il disparaît très vite, quoi. Sur l'espace d'une ou deux générations, s'ils n'arrivent pas à retrouver des femmes meilleures, le clan, il a disparu. Donc, ça peut aller vite. Quand vous êtes sur un clan d'Homo sapiens où il y a 100 personnes, dont 30 femmes adultes, ben là, vous avez le droit d'avoir un petit peu de perte. C'est un peu horrible ce que je vous dis, mais c'est comme ça.
D'accord. On avait aussi une autre question. Comment trouvez-vous ces sites?
Alors, il y a pour les zones entre guillemets karstiques, bon, 9 fois sur 10, c'est suite à des recherches soit programmées, soit préventives. C'est rare qu'on les trouve par hasard, contrairement à ce qu'on pourrait croire. L'archéologie programmée, c'est quand on fait des prospections plus ou moins intensives sur une zone donnée, en cherchant particulièrement quelque chose. C'est pour les préhistoriens que nous sommes, pour ça, les grottes pratiques. Il suffit, enfin, c'est un peu caricatural, hein, mais il suffit de trouver une grotte et d'aller faire un sondage dedans. Et assez souvent, on trouve un site archéologique. Donc là, ce n'est pas très, très, très compliqué. Alors, vous allez me dire, dans le nord de la France, les grottes, il n'y en a pas des masses. Oui, c'est rien de le dire. Il y en a eu hein, dans la région de Boulogne, mais ça a été détruit au 19e siècle par des carrières. Donc, on ne sait même pas ce qu'il y avait dedans. Toute la vallée heureuse là-bas était entièrement ravagée. Donc là, on travaille beaucoup en archéologie préventive, c'est-à-dire les travaux qui sont réalisés avant les travaux de construction.
Oui.
Comme sur le TGV Nord, il y a eu des fouilles préhistoriques extrêmement importantes. Sur l'autoroute A16 et A29, il y a eu des magnifiques sites préhistoriques. Ça, c'est de l'archéologie préventive. Pareil sur le premier tracé du canal Seine-Nord-Europe, là, celui qu'on doit recommencer parce qu'ils ont bougé le tracé. Bon, ça, c'est comme ça. Là aussi, il y a eu des sites préhistoriques extrêmement importants. Pas que, hein, il y a aussi du gallo-romain, de l'Antiquité, etc. etc. et de la proto-histoire, des Gaulois, mais pour la préhistoire, il y a eu des sites magnifiques. Il y a également d'autres possibilités. Au 19e siècle, il y avait beaucoup de briqueterie dans la région, beaucoup, beaucoup. Il suffit de regarder toutes nos rues, hein. Tout ça, c'est des briques qui ont été faites avec ce qui a été extrait des briqueteries de la région. Et donc, dans ces briqueteries, ben, il y avait beaucoup de sites préhistoriques. Et c'est là que Boucher de Perthes a fait ses premières armes et que beaucoup de sites ont été découverts grâce à ça. Le site Damien Renancourt, que vous connaissez peut-être, oui. Du fait de la petite des Vénus, il y en a 16
Vénus,
maintenant.
Hein. Oui.
C'est un site qui est depuis 1907 parce qu'à côté, il y avait une briqueterie. Et un type qui s'appelle Victor Comon, qui était un grand archéologue amiénois de l'époque, qui est mort en 1918, avait fouillé ce site-là pour partie en 1907-1908. La difficulté, c'est que quand il est mort, toutes ses notes et sa collection ont été dispersées. On n'a jamais plus rien retrouvé, malheureusement. Donc, c'est le problème de l'archivage de tout ça. Et on a mis plus de 20 ans, quand on s'y est intéressé, à retrouver l'emplacement du site. Parce que ce n'était pas archivé, simplement. Quoi. Maintenant, on l'a retrouvé. On est très content. Le site, en revanche, le site de Cahours, là, ce n'est pas du tout de l'archéologie préventive, parce que les gravières, enfin, les briqueteries, c'est quasiment du préventif. Le site de Cahours, ce n'est pas du tout de l'archéologie préventive. C'est un collègue géologue qui s'intéressait aux tufs. Et les tufs se déposent sur des rivières ou des fleuves lents, comme vous le savez. Et là, il y a une très modeste rivière qui s'appelle le Scardon, qui se jette dans la Somme. Et en cartographie, notre ami géologue, qui s'appelle Pierre-Antoine, avait repéré sur des cartographies anciennes des zones de tuf à cet endroit-là. Et comme lui, c'est sa spécialité, il est simplement allé voir ce que donnaient ces zones de tuf. On a fait un grand trou à la pelle mécanique là-dedans et c'est là qu'on a trouvé le site archéologique, qui est un site majeur. Donc voilà en gros comment on trouve les sites archéologiques et on profite beaucoup des travaux et des grands travaux pour en trouver d'autres.
Et vous avez évoqué tout à l'heure la rue du Manège à Amiens.
Oui, c'était une résidence.
Oui.
Donc avant qu'ils, je ne sais plus comment, j'avoue, j'ai un peu oublié, ne construisent sa résidence, nous, on était passés voir. Donc il y avait des maisons amiennoises, hein, vous voyez ce que c'est, les petites maisons type amiennoises qui existaient sur le terrain, mais qui étaient en très mauvais état, qui ont été rasées par le constructeur de la résidence. Et entre la fin, après le moment où il a déblayé le terrain et le moment où il voulait construire sa résidence, nous, on est intervenu à ce moment-là, juste entre les deux, pour justement faire ces sondages que vous avez vus sur la diapositive, pour voir s'il n'y a pas quelque chose. Parce que là, on est sur les systèmes qu'on appelle les terrasses de la Somme, qu'on commence à quand même assez bien connaître. Hein. Ça fait plus de 150 ans qu'on travaille là-dessus. On commence maintenant à bien les connaître. On essaie de les cartographier. Et au départ, l'origine de notre intervention, c'était pour retrouver les terrasses de la Somme à cet endroit-là, si elles existaient à cet endroit-là ou pas. Parce que la Somme a beaucoup bougé en latéral, et on essaye de recartographier ça, parce qu'on sait que dans quasiment toutes les terrasses de la Somme, il y a des sites préhistoriques. Le gros avantage, c'est que les hommes de l'époque s'implantaient sur ces terrasses, parce qu'ils étaient proches de la rivière, proches de lieux de passage de gibier. Et les terrasses, ben, c'est des phénomènes d'érosion de la craie avec du silex qui apparaît. Donc, on a de quoi tailler des outils, on a du gibier à surveiller et on a de l'eau. Donc, tout va bien. Donc, c'est des lieux vraiment propices à des occupations préhistoriques. Donc, nous, on essaie de retrouver cette terrasse pour voir s'il y a des occupations dedans, quoi.
D'accord. Et pour l'archéologie préventive, vous avez une période en fait donnée. Quand vous trouvez quelque chose, cette période ou pas ? Enfin, je veux dire, comment ça fonctionne ?
C'est un système qui est assez compliqué, parce que si ce n'était pas compliqué, on ne serait pas en France, forcément. Quand il y a des travaux qui sont prévus, peu importe les types de travaux, enfin, il y a des sous-détails, mais je vais la faire brève. Quand il y a des travaux qui sont prévus, la préfecture de région, dans laquelle se trouve le service régional de l'archéologie, examine le permis de construire ou le permis d'aménager. Et en fonction de plusieurs paramètres, le plus important étant la superficie des travaux, hein. Si vous faites un jardin, on ne va pas aller vous embêter. Si vous faites une autoroute de 100 km de long, là, pour le coup, vous allez nous voir arriver. Donc, en fonction de l'ampleur et de la superficie des travaux, mais de leur profondeur aussi, prévue en tout cas, on va aller faire ce qu'on appelle un diagnostic archéologique, qui, comme son nom l'indique, consiste à faire un repérage du terrain, soit simplement en surface, soit en profondeur, hein, avec des pelles mécaniques ou d'autres outils, d'autres instruments et d'autres engins, pour essayer de savoir si oui ou non il y a un site archéologique. Si on ne trouve pas de site archéologique, bon, bah, ça s'arrête là, et puis ils font leurs travaux. En revanche, s'il y a un site archéologique, là, pour le coup, on fait tout un rapport complet qui est examiné par une commission indépendante, une commission scientifique indépendante qui siège à l'échelle de la région et qui détermine si oui ou non le site vaut la peine d'être fouillé. Si le site vaut la peine d'être fouillé, donc ça c'est une décision à caractère. Si le site, c'est ça qui est bien, quoi, hein, si le site vaut la peine d'être fouillé, bien, l'aménageur est censé acquitter sur ses propres deniers la fouille archéologique. C'est lui qui va payer l'opération de fouille. Sauf dans certains cas, par exemple, si c'est un particulier qui construit son pavillon, là, c'est l'État qui prend en charge, quoi, qui prendra tous les frais en charge. Mais si c'est une usine, si c'est une autoroute, etc., c'est l'aménageur qui va payer la fouille. Alors lui, après, il peut soit payer la fouille, donc ça permet de sauver la formation et d'apporter à la connaissance, de recherche. Mais il peut également décider de modifier son projet. Par exemple, rue du Manège, nous, on a fait le diagnostic archéologique, il n'y a pas eu de fouille derrière parce que l'aménageur a décidé de ne pas faire des parkings souterrains.
D'accord.
Donc, il a mis une dalle béton sur le site et le premier niveau est devenu le parking. Moi, j'habite rue Saint-Acheul, un peu plus haut que chez moi. Il y a une résidence qui a été construite comme ça. Il y avait un site archéologique, parce que là, on est sur ça, on est sur la quatrième. Et l'aménageur a choisi de faire la même chose, c'est-à-dire de couler une dalle béton largement au-dessus du site archéologique. Et le parking se trouve au premier niveau, au rez-de-chaussée, quoi.
D'accord.
C'est un choix, ça, c'est le choix qu'ils peuvent faire. Mais le site est sauvé.
Oui.
On ira le fouiller d'ici une centaine d'années quand on détruira la résidence, quoi.
On va prendre une dernière question de Donio. Avez-vous trouvé des sites dans la vallée de l'Oise ?
Il n'y a pas de site préhistorique très ancien dans la vallée de l'Oise. Il y a beaucoup de sites proto-historiques, donc de l'époque gauloise, mais on a néanmoins un site du Paléolithique supérieur, daté d'environ moins 13 000 avant Jésus-Christ, sur la commune de Verberie. Je ne sais pas si vous voyez où ça se trouve, Verberie.
Oui.
C'est pas loin de Compiègne, en fait. Hein. Mm. C'est le lieu dit s'appelle le Buisson Campin, hein, très précisément. Et c'est le Paléolithique supérieur de Verberie. Là, c'est un site gigantesque. C'est vraiment un truc énorme, énorme. Ça a été fouillé pendant des années par une collègue qui s'appelle Françoise Audouze, Audouze, si ça voulait faire des recherches sur Internet là-dessus, Verberie, Buisson-Campin, Audouze, Françoise. C'est un site gigantesque, vraiment gigantesque, avec des milliers et des milliers de silex taillés et d'ossements animaux. C'est la période qu'on appelle le Magdalénien. C'est les descendants de ceux qui n'ont pas Lascaux, même si ce n'est pas la même région, mais globalement, c'est ces gens-là. Et dans la vallée de l'Oise, de la Seine, etc., il y avait beaucoup d'occupations magdaléniennes. Le petit problème de la vallée de l'Oise, enfin, ce n'est pas un petit problème, c'est un gros problème d'ailleurs, c'est que c'est une vallée qui a été depuis très longtemps exploitée par les carriers.
D'accord.
Et exploitée avant que nous, on ne puisse intervenir. Parce que les exploitations par les carriers, ça date des années 20, des années 30. Mmh. Et l'archéologie préventive n'existait pas à cette époque-là.
D'accord. Excusez-moi, donc, je ne voudrais pas paraître impoli, mais j'ai peur qu'on soit après coupé sur le timing.
Pas de souci.
Voilà. Alors, écoutez, je vous remercie très chaleureusement de cette intervention très riche. Je remercie aussi les collègues. Et puis, n'hésitez pas donc à me renvoyer le lien et les oui. informations.
Si j'oublie, pour que je puisse... si j'oublie vous...
D'accord, oui, pas de souci. D'accord.
Ça marche.
Voilà.
Merci beaucoup. Merci
à tous.
Au revoir, une bonne soirée.
Bonne soirée. Ça, c'est et bonne puis soirée. À la prochaine conférence.
Oui, c'était très intéressant. Merci beaucoup.
Merci
beaucoup. Merci à tout le monde. Encore merci, monsieur.
Oui.
Bonne soirée.
Au revoir, bonne soirée.
Au revoir.
Cécile, je t'envoie les enregistrements là. Je termine là, hop. Et puis, écoute, je te remercie.